Donc le but en fait c'est de faire ressentir l'avion à travers cette veste. Donc c'est vraiment histoire d'avoir l'avion dans la peau.
Impatience. Nancy Ypsilantis.
Histoire d'avoir l'avion dans la peau, c'est le moins qu'on puisse dire en ce qui vous concerne, Emmanuel Grippon. Solar Impulse devient quasi une passion.
Ben écoutez, j'ai eu effectivement la chance là pendant une semaine de suivre le vol virtuel de cet avion solaire, ce projet de tour du monde qui se fera à l'horizon 2012 avec un avion qui n'emportera aucun carburant avec lui et qui va voler comme ça de jour comme de nuit. En tout cas, c'est l'idée développée au départ par Bertrand Piccard, puis maintenant par toute une équipe.
Et premiers essais concluants.
Oui, alors les essais virtuels qui se sont déroulés cette semaine étaient extrêmement concluants. On a vu que, en tout cas sur le papier, au niveau des ordinateurs, c'était possible de le faire. L'avion, le premier prototype, celui qui fera 60 mètres d'envergure, c'est gigantesque, volera en tout cas avant 12 mois. Dans les 12 prochains mois, il va voler, il va être testé. On en saura un petit peu plus. Mais c'est vrai que là, pendant cette semaine, on a testé hypothétiquement la machine, on a testé les hommes parce que les conditions dans lesquelles ils vont faire ce vol vont être extrêmement compliquées. Les étapes feront 5 jours et ces 5 jours installés dans une seule position avec des conditions de vie absolument déplorables. Donc ça crée une situation un petit peu particulière, difficile. Il faut pouvoir, qu'on soit au sol ou même dans l'avion, il faut pouvoir observer le pilote, savoir dans quel état il est. Il faut aussi peut-être d'une certaine manière l'aider parce que ce pilote-là n'aura pas, cet avion-là, pardon, n'aura pas de pilote automatique. C'est le pilote et lui seul qui va devoir, pendant 5 jours consécutifs, piloter avec des phases de repos sûrement, mais dans des conditions qui seront extrêmement difficiles. Alors pour ça, il y a tout un tas de choses qu'on a développées. Ça a pour nom générique, et c'est assez connu, des interfaces homme-machine. J'ai demandé à Bertrand Piccard, qui sera vraisemblablement le premier pilote de cet avion, de nous en parler.
Alors il faut bien réaliser que l'interface homme-machine est très importante dans un avion comme celui-là qui ne se comporte pas du tout comme un avion normal. C'est un avion par exemple qui, à cause de son inertie et de son envergure, aurait des comportements très dangereux s'il s'inclinait au-delà d'une vingtaine de degrés. Alors la veste développée par les PFL permet d'avertir le pilote pendant qu'il est au repos ou pendant qu'il est occupé à autre chose d'une inclinaison excessive. À 10 degrés, ça commence à vibrer un petit peu. 15 degrés, ça vibre davantage. À 20 degrés, ça vibre et ça hurle dans le cockpit. C'est une manière comme ça d'utiliser d'autres canaux sensoriels pour faire réagir le pilote. Parce qu'il faut bien réaliser qu'après plusieurs jours de vol, les yeux sur le cockpit, sur des instruments, etc., c'est peut-être pas une lumière de plus qui va suffire. Et cette invention de cette veste vibrante est vraiment une aide au pilotage qui est remarquable et une manière d'augmenter la sécurité. En plus de la veste vibrante, un espèce de soutien à gorge, on fait toute la panoplie des habits, avec détection du rythme cardiaque, du rythme respiratoire et une analyse sur un doigt de la saturation d'oxygène dans le sang. Et ça permettait d'être sûr déjà que le pilote ait suffisamment d'oxygène. Bon, dans la simulation, c'est pas grave, mais en vol, imaginons qu'une bouteille se soit vidée plus vite, qu'il y ait une fuite ou quelque chose comme ça, l'équipe de sol peut être avertie par télémétrie. Donc ça, c'est également une manière d'augmenter la sécurité. Puis ensuite, d'étudier et de surveiller les rythmes circadiens du pilote, c'est-à-dire les rythmes où l'état d'éveil est au top, où l'état d'éveil diminue. N'importe qui a ça, un joueur de tennis, on voit très bien, il y a un match en 5-7, on voit très bien quand les six sont au top ou en bas. Et pour un pilote, c'est exactement la même chose sur des longs vols. L'équipe de sol surveille l'état du pilote, mais peut également prédire, si le cycle est bien étudié, à quel moment il faudra que le pilote se repose pour être en condition optimale par la suite.
En fin de compte, le sol va aussi vraiment vous monitorer, vous.
Alors, l'équipe de sol va monitorer le pilote, que ce soit André Borschberg ou moi, dans le but d'améliorer la sécurité, mais aussi dans le but de développer des outils qui soient utiles à d'autres gens plus tard. Il y a des détecteurs, justement, d'endormissement qui sont développés avec nous et qui peuvent servir à avertir un automobiliste que son état de vigilance est descendu au-dessous du seuil de sécurité parce qu'il roule depuis trop longtemps sans faire de pause ou parce qu'il est trop fatigué. Donc il y a des tas d'applications par la suite qui sont développées là et qui rendront service à d'autres.
Et nous, on rêve de toutes les applications possibles d'avoir une veste qui parle, en tout cas une veste intelligente. Autre recherche suscitée pour Solar Impulse, c'est Emmanuel Grippon. C'est un gadget à stress, enfin pas un gadget, c'est une machine qui mesure le stress.
Oui, effectivement. Alors, on a l'habitude, quand on veut mesurer le stress de quelqu'un, de prendre, par exemple, principalement son rythme cardiaque ou de mesurer la vitesse de sa respiration. Ce sont des indicateurs biologiques qui sont assez clairs. Mais c'est pas forcément suffisant parce qu'on peut avoir des périodes où l'individu a une maîtrise complète de son rythme biologique, mais par contre vit un stress qui peut être extrêmement fort. Donc, parmi les développements qui sont faits en ce moment pour Solar Impulse, il y a une recherche sur ce stress, mais détecté dans la voix. Alors, je vous propose d'écouter les explications de Christophe Bézot, qui est à l'origine du développement de cette machine à mesure de stress par la voix.
Alors, nous avons travaillé sur un système expérimental de mesure du stress à travers l'analyse de la voix, à travers l'analyse des messages du pilote vers la direction de vol. Alors, les messages sont capturés et analysés en temps réel. En temps réel, on va extraire quelques dizaines de composantes de la voix et déduire de ces composantes un état de charge émotionnelle du pilote.
Où réside la difficulté dans la perception du stress dans la voix? Qu'est-ce qu'il a fallu faire, en fin de compte, pour arriver à ce produit-là?
Alors, mesurer le stress dans la voix est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que la voix est un support qui change énormément. Donc, il y a l'intonation, il y a la façon de parler des gens, etc. Donc, le support de la voix est très changeant. Or, la détection de stress devrait se faire de façon complètement indépendante, par exemple, de l'intonation.
Ça veut dire que, dans l'absolu, vous devriez pouvoir analyser une voix sans l'avoir prémodélisée, sans qu'on ait la voix neutre, être capable de dire « là, il y a stress ».
En tout cas, il faut débarrasser l'analyse de la voix de toutes ses composantes volontaires, comme par exemple l'intonation, et extraire les composantes involontaires, comme celles qui sont la signature du stress. Et la réponse à ça, c'est une modélisation statistico-probabiliste, qui est la seule réponse possible pour prendre en compte ces caractéristiques éminemment changeantes et les traiter comme quelque chose de naturel, mais extraire une information qui est cachée, qui est celle porteuse de l'information de stress, donc porteuse du message de stress, et donc pouvoir délivrer un indicateur fiable de niveau de charge émotionnelle, malgré ce que peut dire la personne, malgré la façon dont elle le dit, et ceci indépendamment de toute manifestation volontaire qu'elle peut mettre dans ce qu'elle exprime.
Ça veut dire que, d'après vous, on ne peut pas masquer son stress?
On peut masquer son stress de façon partielle, et je pense que des grands professionnels peuvent arriver à essayer de l'atténuer, mais il restera des composantes qui sont involontaires et qui seront détectées par le système, oui.
Emmanuel Gripon, j'ai compris que c'était un développement qui comprenait des formules statistico-probabilistes, mais en quoi ça consiste véritablement?
Alors, je me le suis fait expliquer par Christophe Bézot et j'ai compris, mais pas totalement. Simplement, cette approche statistico-probabiliste donne, c'est des formules mathématiques, hein, et qui donne une place au hasard, à l'imprévu. C'est pas du calcul standard et c'est une machinerie extrêmement complexe. Mais Christophe Bézot m'a promis que si je montais le voir à Paris, parce que c'est là-bas qu'il travaille, on prendrait le temps qu'il faut pour arriver à maîtriser et à bien comprendre ces techniques de calcul. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous prochainement pour aller étudier ça de plus près.
Top là.
Impatience. Nancy Ypsilantis.